Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Bonjour à tous et bienvenue en cette nouvelle semaine. Certains feront le pont, peut-être, le 8 et 9 mai. Qu'ils soient rassurés, nous ne le ferons pas. Nous serons chaque matin ici, présents pour Europe 1 d'abord jusqu'à 9h30 et puis pour CNews à l'heure des pros jusqu'à 10h30. Les frères musulmans sont sur le point de franchir un point de bascule en France. Qui le dit ? Marine Le Pen ? Éric Zemmour ? Non. Il s'agit de l'homme a priori le mieux informé de France, le ministre de l'Intérieur, monsieur Gérald Darmanin. Hier, dans le journal du dimanche, il a tiré la sonnette d'alarme. Les frères musulmans veulent instaurer un califat mondial, rapporte une source de la DGSI, le service intérieur, renseignement français. Ils souhaitent rendre la France charia compatible. Je parle des frères musulmans. Gérald Darmanin prévient de la stratégie, pénétrer les administrations, passer les concours, défendre les revendications religieuses dans les entreprises. La victimisation est aussi une arme, racisme d'État, islamophobie, violence policière, vous connaissez. Ce n'est pas un éditorialiste de Valeurs Actuelles qui l'écrit, ce n'est pas le Rassemblement National ou Reconquête qui le dit, je le répète, c'est le ministre de l'Intérieur qui l'annonce. L'État est démuni, le cadre juridique n'est pas adapté. Gérald Darmanin souhaite sensibiliser l'opinion publique à cette menace. Ça fait des années, notamment dans le domaine du sport, que beaucoup d'observateurs prévenaient. L'aveuglement des hommes politiques, des journalistes, des intellectuels, des artistes rend aujourd'hui encore plus difficile une bataille dont nul ne sait qui sortira vainqueur. Il est 9h01, Chana Lousteau.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Deux hommes ont été tués par balle à Sevran en Seine-Saint-Denis. Ça s'est passé hier en pleine rue, moins de 48 heures après la fusillade qui a fait un mort et plusieurs blessés dans un autre quartier de la ville. Les victimes avaient 31 et 35 ans et étaient connues des services de police, notamment pour trafic de stupéfiants. Le professeur en criminologie Alain Bauer compare Sevran à Marseille.
Là, il s'agit de représailles suite à un épisode précédent qui avait amené à mort et des blessés. C'est un rythme particulier, de la même façon qu'à Marseille, où pendant des semaines, les deux gangs principaux se sont alternativement auto-éliminés les uns les autres jusqu'à une suspension provisoire, même si on s'attend aussi là à une reprise technique malgré la qualité de l'opération XXL, mais qui, comme d'habitude, dure le temps qu'elle peut durer.
Aurore Berger organise aujourd'hui les premières assises de lutte contre l'antisémitisme. Le gouvernement veut créer un sursaut collectif face à l'explosion des actes antisémites en France. Tous les cultes seront représentés à cette réunion. Se représentent Mgr Dornelas, archevêque de Rennes, Elie Korchia, président du Consistoire central, ou encore Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Et puis une opération d'évacuation a été lancée à l'est de Rafah par l'armée israélienne. Environ 100 000 personnes seraient concernées. Encourage les habitants à se rendre dans les zones humanitaires. Et hier soir, Benjamin Netanyahou a rappelé que rien n'empêchera Israël de se défendre. Écoutez.
Je le dis aux dirigeants du monde, aucune pression, aucune décision d'une quelconque instance internationale n'empêchera Israël de se défendre. En tant que Premier ministre d'Israël, le seul et unique État juif, je m'engage ici, à Jérusalem, en ce jour de commémoration de l'Holocauste, à ce qu'Israël, s'il est contraint de rester seul, reste seul. Mais nous savons que nous ne sommes pas seuls.
Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
Merci beaucoup, Chana Lousteau. Nous sommes ce matin avec Elisabeth Lévy, avec Georges Fenech, avec Philippe Guibert, avec Nathan Dever et avec Laurent Franck-Lénard, qui est l'avocat du policier mis en cause dans l'affaire Naël. Et Sandra Buisson va nous rejoindre dans une seconde. Hier a donc eu lieu cette reconstitution. Le policier, je voulais savoir dans quel état d'esprit il est, et je salue évidemment Sandra Buisson. Je voulais savoir s'il est sur une défense de type « je ne pouvais pas faire autrement ». Et effectivement, c'est terrible, parce qu'un jeune homme est tué, mais je l'ai fait parce que je ne pouvais pas faire autrement. Ou est-ce qu'au contraire, il imagine qu'il pouvait avoir une autre attitude, un autre comportement, et qu'il pense qu'il est dans l'erreur dans ce qu'il a fait.
Alors ce policier, il ne faut pas oublier que c'est un homme qui a consacré sa vie à défendre les gens, à défendre la France et à défendre les gens. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé devant un juge, d'abord en garde à vue, puis devant un juge, puis mis en détention.
Ce qui nous avait choqué, pour tout dire, et nous l'avions dit ici, que ce n'est pas la place d'un policier d'être en prison parce que, a priori, il n'aurait pas quitté la France et il aurait accepté d'être convoqué par tous les juges d'instruction. Mais ce n'est pas la question que je vous pose.
Oui, mais
moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il pense de ce qui s'est passé.
Je vous donne son état d'esprit. D'abord, il a ce choc psychologique d'avoir été jeté en détention. Il en est sorti 4 mois et demi après, donc très éprouvé. Il est très éprouvé psychologiquement parce qu'il a tué quelqu'un. Et il n'avait jamais tiré sur quelqu'un. Il n'avait jamais lancé une grenade. Il n'avait jamais tiré au taser. Ce policier, il n'avait jamais fait acte de violence. Il a tué quelqu'un. Et c'est extrêmement douloureux aussi. Mais il est combatif. Il est combatif parce qu'il est persuadé qu'il n'avait pas d'autre choix. Il est droit dans ses bottes. Il sait ce qu'il a fait. Il sait pourquoi il l'a fait. Et la reconstitution n'a pas permis du tout de mettre en exergue une quelconque faute, un quelconque défaut de perception de la réalité. Mon client, il a perçu un danger, il a perçu 3 types de dangers différents, et il a appliqué un tir parce qu'il n'avait pas
d'autre choix. Et pourquoi il ne laisse pas, que dit-il, alors ce qu'on lui posera une question très simple, pourquoi vous ne laissez pas partir la voiture?
Oui, c'est extrêmement simple, effectivement, il aurait pu laisser partir la voiture. Cette voiture, elle manque d'écraser 2 personnes quelques secondes avant. Elle manque d'écraser une maman avec des enfants et elle manque d'écraser un cycliste. Mais vraiment, le cycliste, les deux motards disent tous les deux la même chose. On a fermé les yeux parce qu'on a vu la percussion. On a vu qu'il allait le tuer. Et c'est passé par miracle.
Donc, et ces cyclistes ont témoigné, j'imagine.
Alors, ils vont témoigner si on les retrouve. En tout cas,
on ne les a pas retrouvés ?
Non, en tout cas, on a les vidéos. Donc les vidéos, elles sont très nettes. On voit que ça passe à à un cheveu, vraiment.
Ce sont des éléments, effectivement, qui peuvent accréditer la défense de ce policier.
Les deux policiers avaient décidé
que la voiture s'il laisse partir la voiture à ce moment-là, est-ce qu'il y a un danger immédiat à 5 mètres, à 10 mètres, à 20 mètres, ou est-ce que c'est un danger potentiel de laisser la voiture filer dans les rues?
C'est très simple. Cette voiture, vous avez vu où elle finit. Elle s'encastre dans un poteau. Ce poteau est sur la grande place de Nanterre, sur laquelle passe tout le monde.
Mais est-ce qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un ?
Il est 8h du matin, il y a tout le monde. Il y a énormément de gens.
Tout ça est avéré.
Oui, tout cela est avéré.
C'est-à-dire que si la voiture part, nous sommes d'accord qu'elle est face 10 mètres ou 20 mètres plus loin
à une foule.
Mais c'est important de le dire, parce que moi je ne connais pas
une foule de gens
précisément que vous.
Voilà, une foule de gens à vélo. Alors c'est la très grande place de Nanterre qui est devant la préfecture.
Donc ça,
qui donne accès au RER. Il y a énormément de gens à 8h du matin. Il y a des gens qui emmènent leurs enfants à l'école. Il y a des cyclistes. Il y a des piétons. Et cette voiture folle, si elle arrive sur cette
place... À aucun moment ce policier dit... c'est très dur d'abord d'être policier, bien évidemment. Je pense que personne ne peut imaginer... la vie de ces policiers qui sont confrontés à une réalité, qui tout simplement parfois peuvent, et on le comprend, ne pas avoir le bon geste, perdre leur sang-froid, être pourquoi pas en colère, parce qu'et il ne faut pas l'être bien sûr, mais nous sommes tous des humains. La course-poursuite a duré combien de temps ?
Oh, pas beaucoup, quelques minutes, il y a 3,7 km.
Bon, donc il peut être effectivement, et peut-être, manquer de lucidité et de faire l'irréparable, parce que l'irréparable, c'est qu'un jeune homme est mort et il faut le dire et le redire. Donc à aucun moment, ce policier dit « Effectivement, j'avais une autre solution et je ne l'ai pas fait. » À aucun moment, il est dans cet état d'esprit.
Ce policier, il est vraiment très très clair avec ce qu'il a pensé et ce qu'il a fait. Il ne devait pas laisser repartir cette voiture, parce qu'il est certain que si cette voiture repartait, elle allait tuer quelqu'un.
Je vous propose d'écouter Célia Barotte. Sandra Buisson est avec nous, bien évidemment, et elle peut intervenir, Sandra, à tout moment, et puis même... peut-être des questions à poser. Je voudrais qu'on l'écoute, Célia Barotte, puisqu'elle a assisté à cette reconstitution. Et si j'ose dire, les médias ont accès à la reconstitution?
Non, les médias sont tenus à bonne distance et n'ont pas non plus de visu sur ce qui se passe. C'est un acte d'enquête, donc c'est couvert par le secret de l'instruction.
Elle a duré combien, cette...
14h30.
Elle a duré 14h30.
Elle a duré 14h30 pour 25 secondes reconstituées.
C'est-à-dire que vous êtes, pardonnez-moi de poser toujours des questions très simples, ça s'est passé hier dimanche, vous êtes arrivé à quelle heure sur le...
Nous sommes arrivés à 8h30, le début des opérations c'était 9h, et nous en sommes sortis à 23h30, sans pause, sans déjeuner, sans dîner, nous n'avons pas arrêté de travailler, de 9h à 23h30.
Et le policier évidemment est libre. En ce moment.
Tout à fait, il est sous contrôle judiciaire.
Il est sous contrôle. J'imagine qu'il a quitté l'endroit où il vivait.
Il a une autre vie.
Voilà, il a une autre vie. Dans ces cas-là, tu ne réintègres pas la police, tu ne travailles pas. Quel est son
statut? Il n'a pas d'obligation, il n'a pas d'interdiction d'exercice. Donc, il peut travailler dans la police. Il a juste une interdiction de port d'armes. Il faut lui trouver un poste aménagé, mais pour le moment, l'administration ne lui a pas encore trouvé ce poste.
Donc... Bon, il ne s'exprime pas, ce policier.
Non, il ne peut pas s'exprimer.
Il pourrait s'exprimer, mais...
Il pourrait, mais on est dans le cadre de l'instruction. Ce n'est pas à lui de s'exprimer. Bon.
Je vous propose donc d'écouter Célia Barotte, et puis on écoutera l'avocat de la victime
De Naël.
De sa famille.
De la mère de Naël, qui s'est exprimée ce matin sur une radio périphérique. Écoutons Célia Barotte tout d'abord.
Pour la première fois, toutes les parties de cette affaire se sont rencontrées. Elles ont confronté leur déposition sur la scène de crime. Les témoins de ce 27 juin, les deux policiers impliqués dans cette affaire, mais aussi les deux passagers qui accompagnaient Naël dans la Mercedes jaune, ont donné leur version des faits. Les deux policiers ont refait les mêmes gestes. Ils étaient vêtus d'un gilet pare-balles et d'une cagoule pour préserver leur identité. L'enjeu pour les enquêteurs était de déterminer si le policier mis en examen pour homicide volontaire était en danger lorsqu'il a tiré, lorsqu'il a utilisé son arme. Selon une source proche de l'enquête, la mère de Naël, qui était présente sur les lieux, était beaucoup émue d'assister à cet acte d'enquête. Une reconstitution sous haute sécurité, puisque un dispositif a été déployé aux abords de la scène de crime. La place Nelson Mandela était bouclée. Il y a eu des contrôles de la part des nombreux effectifs de gendarmerie présents sur place. Et puis, des médiateurs municipaux étaient présents aux côtés des jeunes de Nanterre pour éviter tout débordement.
Je vous propose d'écouter peut-être quelques résidents de là où s'est mise en place hier cette reconstitution.
J'espère que cette reconstitution sera bénéfique à l'enquête. Et on espère vraiment que justice sera faite. Je pense que tout le monde attend que ça, en fait, d'être apaisé, parce que c'est quelque chose qui nous a vraiment touchés en tant qu'habitants.
Qu'est-ce qu'on veut faire avec la vérité, madame? On connaît la vérité avant. Tous les jours, il y a des refus d'entrepreneurs, machin, et des policiers qui sont tués. Mais les policiers, quand on a besoin d'eux, ben voilà, on aura besoin d'eux. Il faut respecter l'ordre, c'est tout. Et ceux qui ne respectent pas l'ordre, ceux qui n'aiment pas respecter les lois de la République, il y a quelqu'un qui l'a dit la semaine dernière, qu'il dégage.
Sandra Buisson, on va rappeler que ce policier est donc mis en examen pour homicide.
Pour homicide volontaire, effectivement, c'est la qualification retenue par le procureur au début de cette affaire. Il y a une information judiciaire qui est en cours. Effectivement, plusieurs actes d'enquête qui ont été effectués, plusieurs expertises, mais ça ne préjuge pas de la qualification in fine qui sera retenue si d'aventure le policier était renvoyé en procès, ce qui n'est pas non plus obligatoire. Ça dépendra du résultat des investigations.
Donc on est dans une période d'instruction, Maître Lénard, c'est-à-dire que... Il peut, par exemple, bénéficier d'un non-lieu.
Il peut bénéficier d'un non-lieu. Si les juges entendent notre thèse, il bénéficiera d'un non-lieu.
Ce qui est forcément un sujet délicat, parce qu'il y a une gestion de l'opinion publique. Et on l'avait vu, c'est sans doute la raison pour laquelle ce policier était mis en prison. On peut avancer cette hypothèse.
Oui, il y a une émotion très vive, hein, évidemment. Bon.
C'est un sujet extrêmement délicat. Mais comment... Je trouve qu'il y a là les limites de la justice. Comment peut-on, sur un acte comme celui-là, porter, avec les éléments qu'aura le juge d'instruction, un avis définitif?
C'est son rôle.
Oui, mais c'est le rôle du juge. Convenez que les éléments sont...
Il a une question à se poser, si vous permettez, le juge.
Il y a très peu d'éléments, en fait.
Il y a beaucoup d'éléments. Au contraire, il y a les vidéos, il y a les déclarations, il y a énormément d'éléments.
Oui, mais ces éléments, ce que je veux vous dire, c'est que...
Des expertises.
Et il y a la loi.
Je vais vous dire, de l'extérieur, ces éléments, et c'est ça qui est difficile, ils peuvent accréditer la thèse du policier. Alors, et vous avez une gestion, d'abord vous avez un enfant qui est mort, vous avez une gestion à avoir politique, médiatique de ce dossier.
Ça, ce n'est pas le problème des juges.
Ah bah écoutez,
c'est pas le problème, la gestion politique et médiatique, c'est pas le problème des juges. Le juge, il a une question à poser.
Vous avez raison que ça ne devrait pas être que
Je leur dis quelque chose, il
ne juge
pas. Le juge n'a pas à juger en fonction de ce que nous disons sur
le moral.
Il juge sur les faits. J'ai pas pu faire.
Oui, mais terminé, mais je. Vous avez raison en théorie, mais en pratique...
Alors, je vous explique. Je suis d'accord.
La seule question...
L'opinion publique n'est jamais entrée dans un dossier.
C'est très important que l'opinion publique soit informée.
Non, mais c'est jamais entré dans un dossier.
Ne travaille pas en fonction de ce que pense l'opinion.
D'accord. Ah bon ?
Ah non.
Ah bon ?
Excusez-moi.
J'espère.
Eh bien, vous espérez. Et c'est jamais arrivé.
C'est pas une justice d'opinion, la justice française.
Non, je vous pose une question, répondez à cette question. C'est jamais.
Mais est-ce que vous admettez que la justice...
Quelle question voulez-vous que je
réponde, Georges?
Est-ce que l'opinion publique a influencé une décision de justice une fois dans la
France? Ça arrive. Ça arrive, et c'est un échec pour la justice de se faire influencer par l'opinion. La justice, elle doit être totalement indépendante.
Alors Georges, je comprends tout à fait ce que vous dites. Évidemment, dans les textes, il n'est dit nulle part que le juge doit céder à la pression de France Inter. Ça, c'est clair. Nous sommes tous d'accord. Et pardonnez-moi, j'ai simplement, moi, le sentiment que quand on met en examen ce policier pour homicide volontaire, alors je ne suis pas juge, évidemment, j'attends avec impatience que la justice se prononce, si vous voulez, il y a quand même... une volonté, on est au moment où il y a des débuts d'émeutes, hein, très vite, on n'est pas dans n'importe quel contexte, que tout le monde a la trouille, que ça aille encore plus, que ça monte encore plus aux extrêmes, comme dans l'affaire d'Outreau, le procureur a dit « j'ai mis en examen parce que les médias l'exigeaient ». Donc, vous ne pouvez pas dire que la justice... Si, il l'a dit. Vous ne pouvez pas dire que la justice est complètement indépendante. Mais moi, la question que je voudrais poser, parce que...
Ça s'appelle le trouble.
La question que je voudrais vous poser à tous... En fait, et aux magistrats en particulier, c'est sur le chef d'inculpation, la mise en examen pour homicide volontaire. Ici, on parle souvent des refus d'obtempérer, du fait que les policiers ont peur, si vous voulez, de réagir, ont peur très souvent de se défendre. Donc, est-ce que pour vous, elle est légitime, cette mise en examen, et est-ce que pour l'avocat, elle est légitime?
C'est à moi que vous posez la question.
Oui, les deux.
Mais il est évident qu'il y a mort d'homme. Il y a usage d'une arme à feu par un policier. Il est évident que la justice doit savoir s'il a agi dans le cadre du règle de la loi de 2017. Est-ce qu'il était en état de légitime défense de lui-même ou d'autrui? C'est ce que vous expliquez. La voiture présentait un danger. C'est la seule question.
Combien de personnes vont prendre la décision? Un seul?
Ils sont deux.
Il y a deux juges d'instruction.
Deux juges d'instruction saisis.
Non, mais effectivement, je ne sais pas comment ils travaillent. Bien sûr, j'ai jamais été juge de ma vie. Je vous dis qu'avec les éléments que nous avons. C'est quand même très compliqué, très compliqué. J'ai envie de dire qu'il n'y a que le policier qui sait. Il n'y a que le policier qui sait.
Non. Il y a le guide. Le guide, c'est la loi, normalement. La justice est humaine, elle est rendue par
des hommes. Mais l'appréciation du danger, comment voulez-vous apprécier s'il y avait un danger immédiat pour des personnes qui se trouvaient à 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres ou 30 mètres de la voiture une fois que c'est passé? Je ne veux pas dire que c'est impossible, mais c'est quand même, me semble-t-il, très compliqué. Alors écoutons Nabil Boudi, qui est votre consoeur, votre alter ego si j'ose dire, et qui est l'avocate de Naël et qui exprimait ce matin son point de vue chez nos voisins de Radio Luxembourg.
C'est une maman endeuillée qui a vécu un terrible drame, qui a vu la mort de son fils quasiment en direct. Se faire exécuter comme ça de sang-froid, on en parlera ensuite sur les conditions. Je pense qu'elle arrivera à faire son deuil quand l'enquête sera terminée, quand on aura un procès. Donc naturellement, hier, voir le véhicule de son fils sur la scène, voir les policiers qui ont ôté la vie de son fils, a été un moment particulièrement douloureux pour elle, qu'elle attendait, qu'elle appréhendait, qui a ravivé un certain nombre de souvenirs particulièrement douloureux pour elle. Mais comme depuis le début de la procédure, elle a fait preuve d'un immense courage.
Frère, donc, qui défend la mère de Naël, je vous propose de l'écouter à une deuxième reprise.
La reconstitution, telle qu'elle a été produite hier, c'est sur la base de ces images-là qu'elle a été imaginée. Hein, vous savez, l'expert qui a positionné le véhicule s'est appuyé sur les images qui circulent depuis le départ. Depuis le départ, quelle est la position de la partie civile, de la maman que je représente ? C'est de dire, et on le voit très bien sur les images, qu'au moment où le policier va faire usage de son arme, vous savez, c'est bien réglementé, hein, l'usage d'une arme à feu en service, et les conditions de la légitime défense sont des conditions strictes.
Très encadrées. C'est le code de sécurité intérieure.
Exactement. Ce que dit le code, c'est que un policier peut faire usage de son arme en cas de doit faire utilisation de son arme en cas de nécessité absolue.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est en danger ou si autrui est en danger ?
Oui.
Nécessité absolue, allez-y.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, nécessité absolue ? Avant même de vérifier si les conditions sont réunies, en savoir s'il y a un danger ou pas un danger, qu'est-ce que c'est la nécessité ? C'est-à-dire que le code, le législateur a imposé aux policiers de vérifier s'il n'y avait pas d'autres moyens de parvenir à son objectif que celui de faire usage de son arme.
Quand il dit d'ailleurs que c'est bien encadré, justement non. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de flou. Oui. C'est l'exact contraire, parce qu'on avait souvent dit les quatre. Je crois qu'il y a quatre raisons pour lesquelles le policier, il y a une sorte de flou. C'est précisément le contraire.
Et tout le monde se trompe quand on parle de légitime défense. Ce n'est pas le fait justificatif qui est invoqué ici. C'est pas celui qui s'applique. Donc il faut arrêter de parler de légitime défense dans ce dossier. On parle d'application d'un tir dans le cadre du droit d'usage des armes. C'est 435.1 du Code de la sécurité intérieure. Et c'est donc l'autorisation de la loi qui est en jeu. Mais lorsqu'il parle d'absolue nécessité, il dit qu'il ne faut pas d'autres moyens. Moi, j'attends qu'on me dise comment on arrête une voiture qui fait 400 chevaux.
Elle était arrêtée.
Avec un monsieur qui va repartir. Mais non, elle était en train de repartir quand le tir est fait. Donc
elle était arrêtée.
Cette voiture.
En train de repartir, elle était arrêtée.
Cette voiture va repartir. Il faut qu'on m'explique comment on l'arrête, comment on l'empêche de repartir, sauf à appliquer un tir sur le conducteur. Je demande simplement ça. Personne n'est en capacité de me répondre. Alors, est-ce qu'il fallait laisser repartir la voiture ?
Dans la reconstitution, il y a également des éléments sonores qui ont été entendus. C'est-à-dire que ce policier dit des choses à Naël.
Et la reconstitution sonore n'a pas été possible parce que le quartier entier avait été bouclé. Nous étions dimanche, il n'y avait pas de circulation. Donc le niveau sonore le jour des faits n'avait rien à voir avec le niveau sonore d'hier. Donc nous n'avons pas pu reconstituer les paroles.
Mais le policier a dit des choses.
Alors oui, le policier, il a dit des choses.
Il lui a dit des choses qui peuvent être répréhensibles.
Il est absolument affirmatif. Il a dit trois mots, coupe, coupe, coupe. Et c'est tout. Ce sont les seuls mots prononcés par mon client. Qui visait à
les mots de menace qu'on a entendus n'existent pas.
Lui ne les a pas prononcés. Il est absolument.
Il n'y avait pas un enregistrement sonore qui a existé ou
et
qui a circulé.
Les autres mots ne sont pas de son fait. Donc,
ils sont du fait de qui ?
Je ne sais pas.
ils étaient de l'autre policier.
Je ne sais pas ce qui a été dit. Je ne sais pas qui l'a dit.
Mais l'autre policier n'est pas mis en cause.
L'autre policier est mis en cause. L'autre policier peut s'en expliquer. Son avocat peut s'en expliquer.
Il est mis en cause, l'autre policier ?
Oui. Mais ça ne me regarde pas.
Il était là hier. Oui, mais vous pouvez nous donner simplement ce qu'il a dit.
Non. Non, ça me regarde. Non, je suis
Sandra
désolé.
Buisson, est-ce que vous pouvez apporter quelques précisions sur ces sujets ? Et l'autre policier est mis en cause,
est
mis en examen ?
L'autre policier est placé sous le statut de témoin assisté.
D'accord.
Donc effectivement, il n'est pas mis en examen. Ça veut dire qu'il n'y a pas de toute façon, ce n'est pas lui qui est suspecté d'avoir tiré. Le tir,
tout à fait.
Ça a été effectué par
mais
le
on lui reproche à cet autre policier
Pour l'instant, il est sous le statut de témoin assisté. Il n'est pas mis en examen, donc il n'est pas suspecté d'avoir commis...
Moi, je rappelle la difficulté pour tous les policiers. Parce que pense l'opinion publique ? Effectivement, elle est insupportée par ces refus d'obtempérer. Insupportée. Effectivement, ce qui arrive à certains ne peut pas arriver à d'autres. C'est-à-dire, disons les choses. C'est-à-dire que ça ne peut pas arriver, sans doute, à tout le monde. C'est-à-dire que quand tu vois un policier, tu t'arrêtes. C'est la règle.
Et 100% des gens qui s'arrêtent et qui se laissent contrôler n'ont jamais été blessés, jamais été inquiétés.
Exactement. Il faut le dire, le redire et le re-redire. Parce que ce métier est terrible aujourd'hui de policier. Moi, naturellement, j'ai envie de les défendre toujours et tout le temps parce que ce qu'ils subissent en France depuis des années et quand ils sont sur le terrain et en plus ensuite dans le traitement de l'espace médiatique me paraît pas convenable par rapport à leur engagement. Ce sont des gens qui sont là pour nous. et qu'il faut plutôt aider.
Et qui tous les jours risquent leur vie pour nous.
Et qui risquent leur vie. Bon, il est 9h23, Thomas, il est avec nous. Je suis désolé parce que vous n'avez pas encore parlé, cher Philippe, mais Thomas, mais c'est l'été, Thomas, c'est le printemps, vous savez, vous avez froid?
Un bonnet
dans ma voiture si vous avez froid. Bon, vous êtes là toute la semaine, le 8 et le 9, vous n'allez pas faire le pont, j'espère.
Bien sûr, évidemment, on travaille tous les jours, donc qu'est-ce que vous croyez?
Bonne émission à vous, il est 9h23, avait prévu de ne parler que quelques minutes, mais ce que vous dites est passionnant, donc je vous propose de rester, monsieur Liénard, Philippe Guibert pourra intervenir juste après la pause, et puis après, nous avons beaucoup de sujets, ce qui se passe en Angleterre nous intéresse fortement, Sarah Knafo qui était ce matin sur CNews, on pourra parler du film d'Artus, parce que personne ne l'avait vu venir, il a coûté 7 millions, et un petit budget, succès total, Et tout le monde avait refusé le film, quasiment. C'est comme Les Visiteurs. Les Visiteurs, ça a été produit par France 3 parce que TF1 disait qu'il n'y avait jamais un film du Moyen-Âge qui marche. Puis après, Les Choristes, pareil, ça a été produit par M6 parce que TF1 disait film sur les pensions de 1940, ça n'intéressera personne. Donc c'est l'histoire du cinéma. La pause, à tout de suite. 9h30 et nous sommes à l'heure. Soumaïa Labidi, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Après Sciences Po et les universités, le lycée Gabriel Guisto de Nantes bloqué. Appel au blocus des lycées dans toute la France en soutien à Gaza. Appel lancé par l'USL, un syndicat lycéen, dans un communiqué intitulé « Bloquons nos lycées pour la Palestine » est publié hier. Reste maintenant à savoir si cet appel sera entendu. La parole est aux enfants dans le procès en appel de l'attentat de Nice. En première instance, le président avait estimé que leur place n'était pas dans un tribunal. Mais certains d'entre eux ont insisté pour pouvoir être entendus sur la tragédie du 14 juillet 2016 où une attaque avec un camion a fait 86 morts sur la promenade des Anglais. Et puis, face à l'impasse des négociations pour une trêve à Gaza, réunion d'urgence au Qatar, les médiateurs internationaux tentent d'arracher un accord, mais se heurtent à l'inflexibilité des deux camps. Sur le terrain, les bombardements se poursuivent, à Rafah notamment, où l'armée vient de demander à la population d'évacuer.
Merci beaucoup, Soumaïa. Maître Liénard est avec nous. Il est l'avocat du policier qui a tué le jeune Naël. Je pense qu'on a quasiment tout dit sur ce que nous pouvions dire.
Une précision pour le collègue du policier, vous me demandiez ce qu'on lui reproche. Donc effectivement, il est sous le statut de témoin assisté. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'indice grave ou concordant laissant penser qu'il a pu commettre certains faits. Mais la question que se posent les juges d'instruction, c'est dans les mots qui ont été prononcés, si jamais il s'avérait que c'était le collègue qui avait dit « shoot-le » par exemple, ce qui n'est pas encore prouvé en procédure, eh bien, il pourrait être suspecté d'avoir incité son collègue à tirer. Mais pour l'instant, il n'est pas mis en examen.
Mais ce que vous dites là se base sur quel élément, ce mot « shoot-le » ?
Alors, c'est des mots que certains ont cru entendre sur la vidéo qui a été diffusée très rapidement d'une passante. Il y a des témoins qui disent avoir entendu certaines choses, notamment les deux passagers dans le véhicule. Maintenant, qu'est-ce qui a réellement été dit ? Il y a des investigations techniques qui ont été faites sur les bandes sonores. Et pour l'instant, ce mot n'a pas été prouvé.
Dans la voiture de Naël, il y avait combien de personnes ?
Trois.
Donc ces deux personnes étaient là hier.
Oui, tout à fait.
Et elles ont rapporté, effectivement, on peut dire ce qu'elles ont dit, ou on a accès à ça ou vous n'avez pas accès ?
Non, parce que c'est couvert par le secret.
C'est couvert de la
fonction et je vais pouvoir vous en parler.
J'entends bien.
J'ai bien entendu leur version, mais je ne peux pas vous en parler.
J'entends bien. Bon.
J'avais juste une question, on en a parlé rapidement à la pause. La doctrine de la gendarmerie recommande de ne pas tirer dans les refus d'obtempérer. J'imagine que leur doctrine est fondée sur le fait qu'on ne peut jamais savoir finalement quel est le degré de menace et qu'il vaut mieux ne pas tirer. Qu'est-ce que vous en pensez et pourquoi la doctrine de la police n'est pas exactement la même ?
Alors peut-être est-ce que la gendarmerie travaille en zone périurbaine ou rurale et qu'il y a moins de risques à laisser partir une voiture quand il y a moins de population que quand on est en plein Paris ou à Nanterre, où si la voiture repart, elle risque de taper un vélo dans les 100 mètres.
Le général qui est inspecteur de l'inspection de la gendarmerie...
La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, comme toujours. Pas de doctrine.
Loi.
Si quelqu'un fonce sur toi,
La règle, c'est la loi.
La règle, c'est la même.
Les règles sont les mêmes pour les gendarmes.
Mais oui, je veux dire...
Il y a une déclaration publique du général qui est chargée de l'inspection de la gendarmerie.
Les textes sont les mêmes. On a d'ailleurs, en 2017, aligné le régime de l'utilisation des armes des policiers sur ceux des gendarmes.
C'était suite, justement, à cette affaire où il avait été entendu par l'Assemblée nationale et où le général chargé de l'inspection de la gendarmerie.
Soyons clairs,
la gendarmerie ne recommande pas de tirer.
Les textes sont les mêmes.
Mais personne ne recommande de tirer. Enfin, ça n'a pas de sens. Personne ne dit tirer sur les gens.
C'était ma question, Philippe. Vous avez dit, on en parlait un peu pendant la pause, que ce n'était pas une affaire de légitime défense, que ça rentrait dans la loi de 2017. Et il y a beaucoup de gens qui estiment que cette loi-là, elle crée une sorte de flou sur les conditions, sur certaines conditions de tir dans les refus d'obtempérer.
On l'a beaucoup dit, c'est-à-dire que c'est la manière dont le policier doit réagir et utiliser son arme. Il y a un flou, une nouvelle fois,
on a introduit la notion de périple meurtrier qui n'existait pas avant, déjà, si ça a compliqué les choses.
Est-ce qu'on peut faire deux minutes de pédagogie pour
très vite et après on change de sujet.
Extrêmement rapidement. La loi de 2017 dit qu'on peut appliquer un tir si les personnes sont susceptibles, dans leur fuite, de porter atteinte à l'intégrité physique des gens. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une personne susceptible de Est-ce qu'il faut qu'il y ait une personne devant la voiture au moment du tir ou est-ce qu'il faut simplement qu'il y ait une potentialité de danger si la voiture part et qu'elle est en capacité de porter atteinte aux gens. C'est cette question-là qui est essentielle et à laquelle la Cour de cassation devra répondre puisque être susceptible d'eux, ça ne veut pas dire grand-chose en droit.
Bah, écoutez, moi, les agents peuvent faire usage de leurs armes. Il y a 5 cas, on va les dire, en cas d'atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui ou en cas de menace à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. On est dans ce premier cas ?
On est aussi dans ce premier cas, mais là, c'est
deuxième
plutôt le cas.
Alors, qu'après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées. Troisième cas, si après deux sommations, des personnes cherchent à échapper à leur garde et sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à l'intégrité physique à celle d'autrui, on est dans ce cas-là ?
Non, on est dans le quatrième.
D'accord. En cas de refus d'obtempérer, si le conducteur d'un véhicule refuse de s'arrêter sur ordre des agents, que sa fuite présente une menace physique pour des policiers ou autrui et qu'ils ne peuvent l'immobiliser autrement qu'en faisant usage de leur arme. On est dans ce cas-là.
Voilà.
Mais je vous assure, le juge, ça ne va pas être simple, le juge d'instruction, d'apprécier si effectivement on est précisément dans ce cas-là. Parce si on est dans ce cas-là, c'est non-lieu.
Il a un guide comme jurisprudentiel.
On est d'accord.
C'est le légitime ressenti de celui qui va appliquer un tir. Est-ce qu'il pouvait légitimement penser qu'il était en droit de le faire ?
Je répète, en cas...
C'est du ressenti.
Je répète, bonne chance au juge.
Une très lourde responsabilité.
Parce que c'est non-lieu. Parce que si vous me dites, et c'est les questions que j'ai posées tout à l'heure, qu'il y a des gens qui sont à 20 mètres de la voiture, effectivement, à ce moment-là, il y a un risque.
Bien sûr.
Si vraiment il y a des gens qui sont à 20 mètres, comme vous me l'avez dit.
Mais fondamentalement, ce tir était nécessaire, je suis désolé de le dire.
J'entends bien, mais vous m'avez bien dit qu'il y avait une foule. Il y avait d'ailleurs dans la reconstitution, il y a une foule dans ces cas-là
Non, pas du tout. On n'a pas pu reconstituer l'ensemble des personnes qui étaient présentes sur l'espace public.
J'entends, mais on aurait pu mettre, pourquoi pas, des bureaux.
Non, on s'est focalisé sur la voiture.
Donc, vous maintenez que si la voiture part, immédiatement, il y a des personnes qu'elle peut percuter.
Bien sûr, et elle a déjà manqué d'en écraser deux.
Écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur un sujet évidemment dramatique. Et je le répète, un enfant est... jeune adulte est mort, et effectivement, il faut prendre en compte, bien sûr, cette mort et la peine, le chagrin incommensurable de sa mère. Merci Maître Liénard, merci beaucoup Sandra Buisson, et Gauthier Le Bret va pouvoir venir sur ce plateau. Il s'impatientait, c'est bien normal. T'es privé de vous montrer ce très beau costume qu'il arbore depuis quelques jours.
Vous m'appelez Bozo le clown depuis ce matin.
Non, ça vous va bien.
Vraiment, merci, c'est gentil.
Ça vous va bien.
J'aime votre sincérité.
En revanche, on va écouter peut-être ce qui s'est passé avec Éric Zemmour parce que ça nous intéresse beaucoup. J'ai vu que ça faisait, entre guillemets, réagir ce qui s'est passé à Ajaccio. Sarah Knafou était là ce matin, c'est la compagne d'Éric Zemmour, et elle est également aujourd'hui présente dans l'espace politique, puisqu'elle est...
Troisième sur la liste de Marion Maréchal.
Troisième sur la liste. Alors, je vous propose de voir le sujet de Sarah Varni, qui rappelle ce qui s'est passé à Ajaccio, où il a été agressé, Éric Zemmour.
Oui, il n'y a pas d'autre mot,
Il a été agressé. Donc, voyons ce sujet.
compliqué qu'a vécu Éric Zemmour ce samedi à Ajaccio. Sur le marché de la ville, le président du parti nationaliste Reconquête était attendu par une quinzaine de personnes. Insulté de fachos, il a également été visé de jets d'eau et d'œufs. Sur ces images, Éric Zemmour réagit et semble porter un coup à cette femme. Un réflexe de légitime défense selon son entourage, qui ajoute qu'à aucun moment le président du parti Reconquête n'a eu l'intention de la frapper. Après cette séquence, Éric Zemmour a rapidement réagi.
Ce sont des imbéciles violents qui croient m'intimider. Mais moi, je suis comme les Corses, on ne m'intimide pas.
L'ancien candidat à l'élection présidentielle a poursuivi sa déambulation, toujours suivi par la même quinzaine de personnes tenues à distance par un cordon de CRS. Le président du parti Reconquête s'est exprimé sur les réseaux sociaux.
Ma Corse, c'est celle des Corses qui défendent leur identité, pas celle des milices communistes et des punks à chiens qui font honte aux Corses et détestent la France.
Mais l'accueil qui lui a été accordé selon les différents étals du marché était plutôt mitigé. Une enquête pour violence en réunion avec armes a été ouverte selon le procureur d'Ajaccio. En revanche, pour le moment, aucune plainte n'a été déposée concernant le coup qu'aurait porté Éric Zemmour à la femme.
C'est intéressant parce que la manière dont chacun traduit cette séquence, par exemple, je crois que c'est France Info.
France Info a fait beaucoup de bruit sur les réseaux. C'était Zemmour agresse une femme.
C'était
non,
ça.
C'est extraordinaire.
Frappe une femme.
Frappe une femme.
Non, mais c'était, c'était.
Le titre de le du papier.
Donc non, mais oublié toute la partie où effectivement il s'est pris des œufs. Déjà, il y a plusieurs choses.
Non, mais
qui a suivi la campagne d'Éric Zemmour sait que c'était son quotidien pendant la campagne.
Non, mais ce que dit quand même, je fais juste une parenthèse, ce que dit Elisabeth Lévy est sidérant.
Sidérant.
Oui. Mais ce titre a été changé?
Non.
Non.
Ce titre est sidérant.
Il a été dénoncé par Stanislas Strigo quand il allait sur le plateau de France Info hier soir.
Non, mais ce titre est sidérant. Parce que,
en fait, bon, qui a suivi?
Après, on peut discuter. Éric Zemmour répond à une femme qui l'agresse et manifestement...
Qui était de dos et qui était déjà ceinturé.
Après, il y a discussion, mais... Enfin bon, il ne faut pas attendre France Info aujourd'hui. Effectivement, on a compris avec l'affaire Akili... Comment ?
C'était aussi Libé.
Non, mais on a compris
hier,
avec l'affaire Akili.
Hier en Corse, il y avait rien d'étonnant.
De France Info.
Déjà, quand il était allé en Corse, il n'était pas encore candidat à la présidentielle. Il était à Ajaccio, sur le port, et il s'était déjà fait chahuter. Il a déjà reçu un œuf qu'on lui a éclaté sur la tête. C'était à Moissac pendant la campagne présidentielle. Ça pose aussi la question de sa sécurité. C'est pourquoi Gérald Darmanin a condamné ce qui s'était passé contre Éric Zemmour et a ordonné une enquête, puisqu'il est protégé par les services du ministère de l'Intérieur. Il a deux personnes du SDLP, Service de protection des personnalités. Ensuite, qu'il réplique n'est pas étonnant non plus quand on connaît Éric Zemmour. Vous lui faites un doigt d'honneur à Marseille, il vous répond par un autre doigt d'honneur. Souvenez-vous, la séquence avait été très longuement commentée. Donc il n'y a rien d'étonnant en fait. L'extrême gauche poursuit Éric Zemmour et qu'il réplique, c'est sa nature. C'est comme ça qu'il est.
C'est-à-dire que les gens ont compris qu'effectivement, quand tu provoques Éric Zemmour, il y a une réaction. C'est ce que vous dites.
Oui. Alors,
mais en même temps, si tu es agressé, tu réagis.
Oui, mais et après, c'est très intéressant. Bon. Il est tout de suite pris par quelqu'un de son équipe qui vient le prendre pour que ça n'aille pas plus loin.
Pas forcément, mais il ne faut pas se tromper. En fait, on ne peut pas d'un côté dire que quand c'est Poutine qui agresse, c'est l'agresseur et condamner Poutine.
Oui, alors.
Je suis d'accord avec vous, mais quand... Il y a des différences de degrés, mais pas de nature, en fait.
Mais là,
c'est-à-dire que d'un côté, on condamne pas l'agresseur, c'est-à-dire que c'est la femme, et puis d'un côté, il y a que l'agresseur qui a toutes les responsabilités. Mais vous avez raison, je retire ma comparaison.
Il n'y a pas de discussion sur le fait.
Elle était audacieuse.
Elle était audacieuse. Moi, ça me.
Élastique.
Non, mais Pascal, en fait, il n'y a pas de discussion.
Elle était élastique.
Je pense qu'il n'y a pas de discussion entre nous sur le fait qu'il faut condamner l'agresseur, ou l'agresseuse,
oui,
en l'occurrence. Il n'y a même pas de discussion là-dessus.
Oui, mais si quelqu'un t'agresse, alors tu n'as pas le droit d'agresser.
Eh ben, pour prétendre à gouverner les autres, il faut d'abord se gouverner soi-même.
Ah bon, d'accord. Donc, il ne faut rien dire. C'est-à-dire que si quelqu'un t'agresse avec un
couteau, c'est de Platon.
Et puis,
là, elle est sur les images, elle est de dos.
Oui.
Elle est ceinturée, en effet, on le voit, c'est manifeste, elle est de dos. Et l'agression est finie. Ça me rappelle
Nathan,
un peu dans l'histoire politique, ce qui s'était passé à Mantes-la-Jolie, dans les années 90, quand Jean-Marie Le Pen, en pleine campagne de sa fille, je crois, pendant les législatives, avait fait un peu la même chose à une candidate socialiste, et que ça avait d'ailleurs contribué à faire perdre sa fille à l'élection, où elle était pourtant donnée en bonne position avant cet événement.
Non, mais
alors là où vous avez raison, c'est qu'idéalement, il ne faudrait jamais répondre de ce type.
Oui.
Idéalement, je suis parfaitement d'accord. Surtout si c'est une femme, puisque idéalement, on ne frappe pas une femme.
Voilà.
Ça, il n'y a même pas de sujet.
Mais voilà. Il ne le savait pas. En se retournant, que c'était une femme. Il se retourne et il a un geste réflexe. On peut le condamner, mais il ne s'est pas mis à tabasser une femme.
Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter peut-être Sarah Knafo, qui était ce matin sur l'antenne de CNews.
Il n'a pas réagi à l'encontre d'une femme, il s'est dégagé d'un agresseur. Une personne qui vient, qui vous frappe à la nuque par derrière violemment, qui vous casse un œuf sur la tête, qui ne réagit pas aux sommations de la police et qui, avec ses 12 amis, piétine, comme vous le voyez sur l'image, les jeunes femmes qui étaient auprès d'Éric Zemmour, ça ne s'appelle pas une femme, ça s'appelle un agresseur, au sens du code pénal.
Alors évidemment, tout le monde réagit, Éric Nolot a réagi, et je vous propose de voir sa réaction, Éric Nolot. Mais alors ceux qui apprécient Éric Zemmour sont plutôt enclins à le défendre. L'œuf entre dans la recette du pain perdu, a écrit Éric Nolot. Cette dame sait à présent qu'il entre aussi dans la recette du pain gagné. Mais l'agresseuse, c'est elle et uniquement elle. Assez de cette inversion de la victime et de la racaille, soutien à mon ami Éric Zemmour.
Vous voyez, c'est
Éric
tout quand même. Où est le service d'ordre? Vous voyez, à quelle distance elle est? À quelle distance elle est? Donc là, c'est une femme, elle a un œuf. Imaginez si c'était un homme avec un couteau. Donc c'est quand même, ça pose vraiment une question de sa protection.
Et puis, une femme avec un couteau d'ailleurs.
Et puis, il y a réaction également.
T'as raison.
Qui a réagi encore? Et nous pouvons voir Clément Beaune a réagi. Qu'a-t-il dit, Clément? Cette semaine, des fascistes défilent librement en Italie. Cette semaine, Éric Zemmour frappe une femme. Cette semaine, l'extrême droite allemande alliée au RN agresse sauvagement un candidat de la gauche. Sinon, l'extrême droite a changé en France et en Europe, bien sûr. Écoutez, Clément Beaune, avec des tweets comme ça, continuez à faire de la politique parce que vous n'allez pas, effectivement, faire beaucoup de voix. Parce
il n'est pas sur la ligne de Darmanin. Hein. Gérald Darmanin, encore une fois, condamne et ordonne une enquête interne.
Je vais vous dire, c'est grotesque. Ce tweet est grotesque.
Bah, vous oubliez toute une
partie. Non, mais attendez, c'est grotesque, mais représentatif.
Oui, mais personne n'y croit.
Il est représentatif d'une certaine opinion aujourd'hui. Voilà. Qui, quand la violence s'exerce contre Zemmour ou contre Le Pen ou contre des gens qui sont proches de Zemmour ou de Le Pen, elle est légitime parce que vous comprenez la vraie violence et leur violence politique.
Et monsieur, donc c'est important de... et monsieur Apathy, qui ne manque jamais de prendre la parole, qu'a-t-il dit, monsieur Apathy? Frapper une femme, Éric Zemmour peut tout faire, la presse le protège. Je ne sais pas où est-ce qu'il a vu que la presse protégeait Éric Zemmour depuis des années. Et puis bon... Voilà.
J'ai une petite question à poser à Gauthier qui est dans les secrets de la politique. Est-ce que dans les équipes de Reconquête, on est d'accord, enfin j'imagine, qu'une scène pareille, en coulisses, ils doivent dire c'est catastrophique cette réaction. Ceux qui sont sur les listes, qui se disent on va peut-être perdre 2 ou 3 points dans les sondages, un peu comme quand il y avait eu le doigt d'honneur, quand il y avait eu l'histoire de l'arme aussi.
À Marseille le sniper.
Oui.
Ils étaient là ce matin, les équipes d'Éric Zemmour, puisque Sarah Knafo, comme le disait Pascal, était à l'antenne. C'est pas ce qu'il se disait dans son équipe. Je pense que... Est-ce que ça peut avoir des effets défavorables sur ceux qui soutiennent Éric Zemmour? Je pense pas. C'est-à-dire que c'est ce que disait Jérôme Fourquet hier sur cette antenne, le politologue. Il disait ceux, les Zemmouriens qui étaient tentés par le vote Bardella, ça pourrait au contraire les ramener dans le giron d'Éric Zemmour parce qu'il est victime de cette violence d'extrême-gauche. Il y a quand même un sujet avec la violence d'extrême-gauche.
Il ne savait pas que c'était une femme lorsqu'il...
Je ne suis pas dans l'esprit d'Éric Zemmour.
Je sais pas.
Il se retourne. Enfin, moi, je pense qu'il ne le savait pas.
Elisabeth était dans l'esprit d'Éric Zemmour.
Oui, on ne sait rien. Elle était de dos, effectivement, déjà ceinturée et déjà évacuée.
Je charrie.
On va faire une reconstitution.
Bon, écoutez,
je suis d'accord avec vous. Vous me demandez de dire ce que pensent les équipes d'Éric Zemmour. Donc, c'est ce que je vous ai dit.
Voilà
en termes d'image, ça peut pas être très bénéfique.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Alors, dans l'actualité étrangère, et j'ai eu notre ami Vincent Hervouette, qui m'a parlé de ce qui se passe aux États-Unis. Le revers électoral massif du Parti conservateur britannique au pouvoir s'est accentué samedi. Les derniers résultats.
En Grande-Bretagne,
non pas aux États-Unis.
Ah, j'ai dit aux États-Unis.
Oui. On avait compris.
Au pouvoir, c'était en Grande-Bretagne. Les derniers résultats des élections locales confirment la large victoire des travaillistes. Alors, Vincent Hervouette me dit, c'est pas tout à fait ça. Hein. Il n'est pas là ce matin. C'est plus compliqué que ça.
Plus compliqué. Ils ont perdu législatives. C'est pas vrai encore.
Bon. Alors ça, en revanche, il me l'a dit. Il m'a dit, ça va être très difficile pour les
législatives. C'est certain, mais c'est pas.
Il y a une poussée écologiste en Grande-Bretagne, donc c'est pas que les travaillistes.
Oui, et puis il y a une poussée quand même islamiste avec
dans certains quartiers.
Attends, certains gardiens. Le candidat écologiste Motin Ali a célébré sa victoire samedi. C'est une victoire pour les habitants de Gaza. Nous ne resterons pas silencieux. Nous ferons entendre la voix de la Palestine. Allah Akbar, s'est-il exclamé. Oui. Exclamé. C'est quand même extraordinaire, pardonnez-moi de le dire comme ça.
Mais Ali,
oui, je considère qu'effectivement c'est étonnant. Donc à Burnley. Alors, Alit, on va peut-être voir la séquence d'ailleurs, parce qu'on a 2 ou 3 séquences à vous proposer. Et c'est celle-là que je vous propose, peut-être la première. Donc, vous voyez, ce candidat, c'est Alit, le candidat. Parce que, vous voyez, vous dites qu'il est écologiste. Il est écologiste ou il est islamiste?
Les deux, visiblement.
Ça, son étiquette politique, c'est écologiste.
Oui, mais vous avez dit écologiste. Oui. Et puis il dit Allah Akbar. Alors, vous, la mise en forme de l'information, c'est quoi?
C'est que son étiquette est écologiste et qu'il a un slogan qui peut être considéré comme islamiste. Ouais.
Il peut être considéré comme islamiste. Enfin,
bref.
En fait, je vous assure, vous me sidérez tous.
Mais pourquoi? Qu'il est
peut
écologiste.
Considéré.
Et son parti est
écologiste. Mais il est plus écologiste ou il est plus islamiste à
votre
avis?
Je ne sais pas, il faudra lui
demander. Non, arrêtez, vous pouvez passer de
Et pourquoi moi
ça.
Je sais alors?
Il est génial.
Parce que vous êtes très fort.
Comment ça se fait que moi je sais et que vous ne savez pas?
Parce que
quelqu'un,
vous êtes
parce très quelqu'un
fort.
Qui dit à l'Akbar, effectivement, je pense qu'il est plus islamiste qu'écologiste, figurez-vous. Mais en fait, c'est sidérant nos conversations.
J'ose pas dire que la couleur verte est commune.
Oui, c'est ça. Non, mais je vous assure, nos conversations, je prends les uns et les autres, elles sont sidérantes parce que vous savez l'habitude.
Enfin, vous allez voir la séquence, vous pouvez dire qu'il est islamiste. Vous allez voir, vous êtes.
Bon, voyons la séquence Alit.
Je regarde la séquence.
N'est pas permis.
Voyons la séquence Alit.
We will raise the voice of Gaza. We will raise the voice of Palestine. Allahu Akbar.
C'est un super écolo, votre ami.
Je vous accorde que sur le la séquence.
C'est un super écolo.
La dimension écologiste.
Et alors, je voudrais quand même qu'on voit quelque chose parce que ça frappe toujours. On va revoir l'image, Marine. Il n'y a pas une femme, hein.
Ah bah non.
Ah bah ça.
C'est pas les
regardez, regardez, toutes ces images que je vais vous proposer avec les célébrations musulmanes en Grande-Bretagne, il n'y a pas une femme. Revoyez cette séquence. Là, si vous voyez une femme, il n'y a pas une femme. Ça n'existe pas.
Non, les c'est féministes... Vrai c'est bon. Vrai que c'est des drôles d'écologistes, ouais.
Oui,
on ne connaît pas leur bilan carbone.
Mais, non mais ce qui est extraordinaire, moi j'ai lu ce matin Le Monde, Libération, etc. Personne ne parle de ça. Les gens disent effectivement, comme vous, victoire des écologistes. Victoire des travaillistes. Mais vous, ça vous fait rire. Mais moi, ça me fait pas rire, en fait.
Non, si, là, ça me fait rire.
Parce que lisez Le Monde. Lisez Le Monde sur le numérique.
C'est sans doute l'erreur.
Le mot islamiste n'est jamais prononcé sur toutes ces victoires.
Mais ça donne. On ne peut pas présenter une
deuxième passage.
Donc, c'est un habillage.
Deuxième passage.
En Grande Bretagne.
Cette fois-ci, à Burnley.
Ah oui?
À Burnley, c'est Aurangzeb Ali, candidat indépendant, qui est élu. Alors, voyez comment il a célébré sa victoire. Bon, on va malheureusement passer une page d'une pause parce qu'on va continuer évidemment à parler de ça, parce qu'à Bradford, hein, pareil. Alors ça, en fait, c'est le monde de demain.
C'est notre avenir.
C'est le monde de demain, enfin d'aujourd'hui, de la Grande-Bretagne.
Mais rien...
Parce qu'on n'a pas ça en France quand même. Hein.
Demain.
Mais oui. Demain, je vous dis, c'est le monde de demain.
Non, il est patient. L'islamisme électoral en France n'a jamais marché à ce jour. Tous les types qui se sont présentés sur des listes du type de.
Du dimanche. Ils font des bons scores dans certaines villes. Ils font des bons scores dans certaines villes aux municipales.
Il n'y a jamais eu de plus de 5%,
il a très bien
y compris dans des.
Non, dans certaines villes, il était aux alentours de 15%.
Y compris sur Seine. Oui, oui.
Et il a très bien marché chez Mélenchon.
En fait, Gérald Darmanin, il dit, comment dire, ce que d'autres disaient il y a 10 ans.
Oui.
Mot pour mot.
L'islamisme électoral, c'est Mélenchon chez nous. Pourquoi tu veux qu'ils aillent dans un...
C'est pas parce que ça n'a pas marché que ça... Je pense que les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Moi, je pense que les frères musulmans sont très influents dans la société et que leur combat est culturel et sociétal. Et je pense pas que l'islamisme électoral n'a jamais marché en France. Mais peut-être que...
Il y a certaines villes qui ont fait
quoi ? Il n'y a peut-être pas les mêmes causes entre le Royaume-Uni et la France.
Voilà.
Ce n'est pas les mêmes mécanismes, ce n'est pas les mêmes modèles.
Tout va très bien.
Madame la marquise.
Tout va très bien, il n'y a pas de souci. C'est un des écologistes. Mais oui. Vous vous rendez compte,
j'avais pas vu la séquence.
C'est sa première fois, c'est des écologistes.
J'imaginais pas le
mon ami Philippe Guéraud.
J'avais pas vu la séquence, mais je vous accorde volontiers que
ça, vous
leur
pas
écologisme.
Mon ami Philippe
Guibert.
Leur écologisme n'était pas évident sur
On marque une pause. Et alors, on va recevoir, tiens, on parlera aussi clause de conscience, Gilles Martin Chauffier, qui a écrit un bouquin sur les journalistes.
Génial.
Quoi dire? C'est un roman, en fait. C'est un roman à clé. Bon, à tout de suite.
Un bon romancier.
Là, c'était du Gilles Martin Chauffier est là. Et Gilles Martin Chauffier a du talent.
Beaucoup. Merci beaucoup.
Mais non, mais vous écrivez, c'est formidable. Vous avez écrit un bouquin, en plus, il y a un bouquin un peu à clé quand même sur nos milieux. Donc on en parlera tout à l'heure, parce que parler de gens qu'on aime bien et des portraits. Yann Barthès, par exemple, que vous avez un excellent portrait dans votre livre. Pour une fois, c'est pas moi, hein, c'est vous. On continuera évidemment à évoquer ce qui s'est passé en Angleterre ce week-end. Somaïa Labidi.
Face à la grève des éboueurs, la métropole de Marseille hausse le ton et demande au préfet leur réquisition. Depuis mardi dernier, les agents des 4e et 5e arrondissements de la ville sont en grève, un mouvement qui s'est depuis étendu à d'autres arrondissements de la ville, au grand désarroi des riverains. Un usage répandu, c'est ce que révèle une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives publiée aujourd'hui. En prison, un détenu sur quatre fume quotidiennement du cannabis. Il s'agit de la première enquête représentative à l'échelle de la France. Et puis cette question, que se passe-t-il exactement à Rafah, 100 000 personnes évacuées par Tsahal? L'armée israélienne assure que l'évacuation temporaire de l'est de la ville est, je cite, une opération d'ampleur limitée, alors que dans le même temps, l'État hébreu, je cite, encourage les habitants à rejoindre des zones humanitaires.
Si, Somaïa, on va vraiment parler dans une seconde de ce qui s'est passé en Angleterre, mais pour vous donner l'eau à la bouche de ce roman, Clause de conscience, publié chez Grasset par Gilles Martin Chauffier, qui a longtemps été à Paris Match, je lis une phrase, les people gagnent à ne pas être connus, les bobos se déguisent en résistants pour rejouer le grand soir.
Oui, parce que le livre raconte en fait le moment où Vincent Bolloré va acheter un journal qui ressemble beaucoup à Match. Et donc c'est, l'inspiration du livre, c'était qu'est-ce que ça déclenche dans Paris. Et d'une certaine manière, c'était un moyen de faire une version 2024 d'Illusion perdue. C'est-à-dire, à la fois, il y a un portrait d'un journal en crise et toute la fausse émotion, la symphonie de soupçons qui se déclenche immédiatement dès qu'on prononce le mot Bolloré, cette façon de monter des palissades qui ne servent à rien, des petites palissades de rien du tout, et en même temps, montrer des gens qui appuient en permanence sur la sonnette d'alarme là où il n'y a pas lieu d'avoir d'alarme. Donc ça, c'était un premier point. Et deuxièmement, je voulais montrer, pour que ce soit vivant, je voulais faire un peu comme Balzac dans Illusion perdue. Il raconte, à l'époque, il y avait déjà des essais sur la presse. Et des essais, d'ailleurs, énormément d'essais du même qu'on ne lit plus. On ne lit plus que les romans. Parce que lui, il avait compris que pour que ça passe son analyse du roman, il fallait qu'il raconte plutôt une aventure, et l'aventure d'un gigolo. C'est-à-dire Lucien de Rubempré qui couche avec Madame de Bargeton, qui va rêver de Madame d'Espard, et entre-temps, il y aurait Coralie. Et là, mon livre, c'est la même chose. Sauf que. En 1830, c'est amusant que ce soit un garçon. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus amusant, en pleine période MeToo, que ce soit une jeune fille qui soit manipulatrice, pleine de charme, intelligente. Et donc, c'est comment elle se sert de cette crise pour pousser sa carrière.
Et puis, quand je dis que c'est un roman à clé, ben, cette jeune femme, par exemple, elle est coachée par une jeune femme qui...
Pas par une jeune femme.
Oui, pas par une jeune femme, d'ailleurs. Par une redoutable Corinne Contant, dite Coco Contexte. Alors, c'est une grande courtière en célébrité, manipulatrice de destinée virtuose. Elle lui a obtenu, grâce à ses relations avec l'Élysée, un long sujet dans le fameux magazine Scoop. À votre avis, qui est-ce? Je saurai.
Le monde.
Bon, l'Angleterre, on y revient. Parce que, donc, on a vu les images de Leeds, avec l'ami écologiste de Philippe Guibert, Motine Ali.
Ça fait beaucoup réagir à cette séquence.
On a vu Burnley, avec Aurangzeb Ali, qui est lui un candidat indépendant, mais qui quand même célèbre, je veux dire ça, victoire à cheval. Et à Bradford, c'est la mairie qui a été conservée par le Parti travailliste. Les candidats indépendants qui ont fait campagne autour de Gaza ont connu une percée. Donc je vous propose de voir cette séquence à Bradford cette fois-ci.
Il n'y a pas une femme.
Ah ben ça, la parité n'existe pas. Je rappelle qu'à Bradford...
Il n'y a pas un chapeau de forme non plus. Ouais. le déguisement anglais a beaucoup changé.
La mairie, je rappelle que la mairie a été conservée par le parti travailliste. Les indépendants à Bradford ont désormais le même nombre de sièges que les élus du parti conservateur. Et dans la capitale britannique, Sadiq Khan a été réélu largement avec 43% des votes pour un historique troisième mandat face à la conservatrice Susan Hall. Écoutez Claude Moniquet, que vous connaissez, qui intervient régulièrement sur ces sujets.
C'est pas un raz-de-marée, mais symboliquement, c'est un moment très fort.
Oui.
Cette parade à cheval à Burnley ou les cris de Allahu Akbar à Leeds sont des choses qui vont profondément marquer certainement la société britannique, qui vont susciter des réactions hostiles d'un côté, scandalisées certainement, mais également des réactions d'adhésion de militants extrémistes qui diront bah « Ben oui, c'est possible, on peut y arriver. » Et qui donc pourraient s'organiser. Et bien entendu, l'objectif, c'est les élections, ce sont les élections générales, les législatives, qui auront lieu au plus tard le 28 janvier, s'il n'y a pas de dissolution des communes avant. Et là, une figure importante, une ancienne figure importante du Labour, George Galloway, a déjà annoncé qu'il allait constituer des listes de dizaines de candidats pro-Gaza et exclusivement pro-palestiniens et motivés par la crise à Gaza. Et là, ce sera le véritable test, voir si ce qui s'est passé ces derniers jours au municipal était juste un coup de semonce sans lendemain ou s'il y a un malaise beaucoup plus profond et qu'effectivement un électorat d'extrême-gauche et un électorat islamiste se rencontrent pour faire élire un nombre significatif de députés.
Retour en France avec l'offensive du gouvernement contre les frères musulmans, et c'est très courageux d'ailleurs.
Ce qui est quand même intéressant, c'est que les extrêmes gauches européennes, ici ou de l'autre côté de la Manche, ont la même stratégie.
Et c'est normal.
Ont la même stratégie.
En fait, c'est une stratégie mondiale.
Parce que ce qui est intéressant, c'est que les islamistes refluent dans un certain nombre de pays musulmans et arabes, et qu'en revanche, en Europe, si vous voulez, ils ont table ouverte maintenant.
Je le répète, les Marocains regardent la France en disant
oui,
vous êtes dingue. Tombés sur la tête.
Ouais, ouais.
Vous êtes tombé sur la tête.
Et les Émiratis et les...
Vous confirmez, puisque vous allez de temps en temps...
Les écologistes marocains, vous voulez dire.
Non, mais c'est vrai ce que je dis ou pas. Oui. Vous êtes souvent au Maroc, on peut le dire.
Oui, tout à fait.
Donc faut le dire. Ils disent vous êtes tombé sur la tête.
Oui, en termes de sécurité en particulier.
Les Algériens, les
Offensive du gouvernement, je voudrais qu'on voit le sujet de Marine Sabourin et les déclarations dont on a parlé tout à l'heure, un peu déjà, de Gérald Darmanin.
Les frères musulmans œuvrent insidieusement à peser dans la société en utilisant des méthodes bien ficelées.
Acclimater, habituer, acculturer et petit à petit imposer donc l'islam, non pas par la violence, mais plutôt par la séduction. Quand une société résiste, alors on l'accuse de racisme, d'islamophobie, etc., etc.
D'autres, sans avoir prêté directement allégeance au mouvement, parviennent à véhiculer la pensée unique, notamment jusque sur les bancs de l'école.
Ils ont organisé eux-mêmes des cours d'aide scolaire, mais aussi d'apprentissage de l'arabe et du Coran. Ils ont privilégié aussi ces instruments-là et la fragilité de ces populations pour les, comme ils disent, réislamiser.
D'autres, sans avoir prêté directement allégeance au mouvement, parviennent à véhiculer cette pensée unique, notamment jusqu'au banc de l'école.
Lorsque j'ai été prof en Seine-Saint-Denis, il y avait... dans chacune de mes classes, quasiment, un jeune homme qui faisait en quelque sorte la police des mœurs dans la classe.
Leur objectif est également de peser sur les décisions politiques en infiltrant directement les municipalités.
Il faut regarder l'organigramme et il y a quand même des signes où vous dites « Ah bah tiens, tel élu de l'équipe, là, bon ». Et vous regardez, et puis oui, effectivement, c'est très clairement un frériste qui, comme par hasard, s'occupe par exemple de la jeunesse et des associations, de la vie associative.
Un rapport public sur la menace que représente cette confrérie est prévu pour l'automne.
Et l'illustration de ça, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec la Fédération française de football.
Qui a intervenu pour effectivement
que les règles de la laïcité soient respectées sur Internet football. Oui. Vous avez une journaliste.
Oui.
Qui a réagi à la position de la Fédération française de football.
Nasserelle,
qui a traité pays de raciste dégénéré, qui avait fait un tweet dont on a parlé la semaine dernière. Cette journaliste a été défendue par l'ensemble de la presse. L'ensemble de la presse. Et qui est accusé ? C'est votre serviteur, parce que simplement nous avons souligné que cette jeune femme contrevenait au principe de laïcité et de ce que dit M. Gérald Darmanin. Donc quand on est à une inversion totale des valeurs... Je pense que...
Elle n'a pas été défendue quand même par le Figaro, le Poil... Je veux dire, donc pas par l'ensemble. Je voulais juste dire le Monde, Libé, bien sûr,
beaucoup de...
France Inter, ce qui est très grave parce que France Inter...
de société des journalistes,
absolument.
J'ai lu, etc. Et c'est nous, et c'est
raison.
Moi qui suis accusé.
Mais si
c'est-à-dire
que
moi, on m'a expliqué, vous déclenchez contre cette jeune femme... Cette inversion des valeurs est totale.
C'est complètement
totale.
Dingue. Mais,
ben oui, mais personne.
Mais quand même, moi, je voudrais dire un mot sur ce qu'a dit Gérald Darmanin.
Oui.
Enfin, peut-être.
Non,
très vite, c'est que Il faut encore aller, c'est très bien, on commence à prendre conscience. Quand je vous ai montré ma une sur dernière chance avant la charia, vous avez trouvé que j'exagérais un peu, mais moi je pense qu'on y est. Oui. Simplement,
on
il
y
faut
est
aussi
pas. On n'y est pas.
À la dernière chance, oui.
Excusez-moi.
Pardon. Simplement. Il faut prendre conscience que vous ne pouvez pas dire ça n'a rien à voir avec les musulmans. Gérald Darmanin dit attention, d'un côté il y a les islamistes, de l'autre côté les musulmans. Les islamistes sont d'abord ils viennent de l'intérieur de l'islam, ils viennent pas de la planète Mars, c'est de l'intérieur de l'islam. Et aujourd'hui,
sauf au Maroc,
en France,
c'est différent.
Oui, en France aujourd'hui, les sondages montrent que quand même on a au moins une moitié de la jeunesse qui est extrêmement perméable à leur thèse. Voilà.
Et sur la charia, c'est quand même la parole de Gabriel Attal qui a dit que la charia s'appliquait dans certains endroits en France et notamment à l'école. On a eu toute une liste de faits, je ne vais pas refaire la liste, mais enfin qui prouvait qu'il y avait une forme de police des mœurs qui sévissait en France.
Il y a eu un gouvernement islamiste au Maroc pendant près de...
Oui, il faut que vous alliez retourner au Maroc, hein, parce que moi j'y suis récemment.
Je suis d'accord avec vous, mais...
Les frères musulmans sont quand même bien implantés.
Mais manifestement, les Marocains se sont rendus compte que ces gens n'étaient pas très efficaces ni très sérieux et qu'ils les ont renvoyés à leurs chères études.
Mmh. Ah, ils ont perdu très nettement les dernières élections.
En Tunisie aussi.
C'est quand même très important de le dire.
En Tunisie aussi, ils avaient été largement battus aux élections.
Bien sûr. Oui, ce qui ne les empêche pas d'infuser dans la société quand même.
Oui, mais c'est intéressant parce que la population marocaine s'est rendue compte, a jugé les faits.
C'est le roi du Maroc. Aussi.
Oui, quoi. La population, manifestement, les a rendus.
C'est le roi du Maroc. Il y a d'autres pays.
Bon, le roi du Maroc a été très habile.
Bien sûr, c'est le roi du Maroc.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
Il a interdit et qui réprime toute tentation.
Allez au Maroc, vous allez voir le nombre de femmes qui ne sont pas voilées. Vous allez pouvoir les compter sur les doigts d'une main.
Oui, c'est vrai que le voile est très présent. Bah,
80.
Et en Égypte, on est passé de Nasser qui dévoile les femmes à toutes les femmes voilées.
Bon. En Égypte, il y a une lutte contre l'islamisme qui est très féroce.
Ils ont été au pouvoir. Ils ont été au pouvoir. Ça ne les empêche pas de continuer à être dans la société.
Et il me semble que l'islamisme, c'est une idéologie qui repère tous les points sensibles de notre société, qui appuie dessus très très fort, avec beaucoup d'intelligence, pour en effet créer des réactions et pour pouvoir augmenter ses rangs de plus en plus. Face à ça, je pense qu'il faut avoir deux choses. Une fermeté absolue, ça c'est évident, tout le monde le dit, je ne vais pas l'ajouter. Mais qu'il faut aussi faire une distinction, qui à mon avis est très importante, entre le phénomène de retour du religieux auquel nous assistons, et nous assistons dans la communauté musulmane, dans toutes les communautés à peu près, et le phénomène...
Enfin, pas arrêter de... avec le... Pas dans toutes les communautés. Pourquoi vous dites ça?
Ah bah aujourd'hui, il y a un phénomène de retour du religieux de manière globale.
Mais pourquoi? Il y a du retour du religieux dans le domaine catholique.
On va y arriver.
Bah, dans le domaine catholique, il y a une baisse, en effet, massive.
Mais pourquoi tout relativiser? Vous avez une offensive islamiste. Point.
Mais c'est ce que j'allais dire.
Non, vous dites toutes les communautés religieuses.
Non, il faut distinguer.
Mais non, il allait faire une.
Il faut distinguer le phénomène du fanatisme du phénomène du retour du religieux. Globalement, c'est vrai qu'en France, on voit, par exemple, dans la communauté musulmane, des gens devenir beaucoup plus pratiquants qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans.
Mais uniquement avec la religion musulmane.
Non, par exemple, dans la communauté juive, vous avez le même phénomène. C'est peut-être moins nombreux, mais vous avez un phénomène de retour du religieux qui est aussi important.
Les protestants.
Et je pense qu'il faut faire cette
distinction. Les communautés noires de la banlieue parisienne sont revenues beaucoup plus religieuses qu'il y a 50 ans.
C'est
les évangéliques font un travail énorme.
Mais on ne met pas en cause les règles de la République.
Et voilà, la différence qu'il faut faire. C'est le retour du religieux.
Excusez-moi, je vous ai coupé. Je vous ai coupé, excusez-moi.
J'avais fini.
Vous avez fini de dire. Voilà. Bon, un mot, parce que votre livre, au-delà de l'histoire qu'on va raconter tout à l'heure, c'est aussi un regard sur notre métier. Et moi, j'ai le sentiment que notre métier... Vous avez un peu plus d'expérience que moi, vous traversez... j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les journalistes ont toujours plus ou moins été à gauche, toujours. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une forme de polarisation, de radicalisation. On voit France Info, on cite souvent France Inter, on va en parler dans quelques instants, et notamment le service public. Il y a des bons sujets, des mauvais sujets. Il y a des bons invités, des mauvais invités. Il me semble que ça n'existait pas dans les années 70.
J'ai l'impression quand même que c'est l'éternelle comédie française qui existait déjà auparavant. Je vous rappelle simplement que déjà dans les années 50, il était absolument impensable de dire que l'Union soviétique était le goulag en Union soviétique était interdit
de sujet. Je parle pas des années 50.
Oui, non, mais
je parle des années 70 qui sont une parenthèse enchantée.
Dans les années 70, personne n'a eu le courage de dire que François Mitterrand avait eu la Francisque. Il y avait des sujets tabous. Il y a toujours eu des sujets tabous en France.
Oui.
Et je vous rappelle, et je dirais même,
on le savait.
Je dirais même que le politiquement correct, c'est les Français qui l'ont inventé. Je vous rappelle que quand Parmentier lance la pomme de terre, Voltaire lance une campagne de presse pour dire « Avant, on va donner à manger de la nourriture des cochons pour les pauvres. » La France, il y a toujours eu ce besoin d'appuyer, de mettre un doigt rageur sur des sonnettes d'alarme inutiles. Et là, on est en plein... Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont interdites, des choses qui sont bien... La bien-pensance est un fond de commerce, un fond de sauce de la pensée française.
Pourquoi elle est à gauche, la bien-pensance ?
Alors ça...
Dans la presse, ça, j'entends.
Bon. Oui, dans la presse et dans un peu partout. La presse,
un peu partout. Un peu partout.
Bon, en tout cas, il y a des, c'est savoureux. Votre livre est savoureux. Être ministre écologiste, c'est comme voiture à pédale ou médecin militaire. Tu n'es ni une voiture, ni un vélo, ni un vrai médecin, ni un vrai militaire, ni un ministre, ni un verre. Dès que tu entames une action sur la recommandation du parti, un sous-groupe d'amis te cloue au mur. Tu te bats pour le TGV Lyon-Turin sous les Alpes pour éliminer des millions de camions autour de Chamonix et des bataillons de soi-disant copains défilent au secours des alpages. Tu finances un barrage hydraulique sur un cours d'eau en Corrèze et les camarades du coin t'accusent d'écocide car tu condamnes à mort les dernières grenouilles à sonnette du marais local. Et je ne parle pas des éoliennes. Il y a 30 ans qu'on se bat pour elles. Désormais, dès qu'on en installe, on provoque des tragédies locales. Où qu'il aille, Laurent se promène avec une cible dans le dos. C'est tellement vrai.
Ben, en plus, c'est le côté...
Vous êtes là pour les éoliennes, quand même.
C'est horrible, les éoliennes. Bon. C'est horrible. Allez, je voulais que je vous parle du parc de la Baule. C'est horrible, t'as l'impression qu'ils ont été jetés comme ça, n'importe comment. En plus, ça sert à rien. Donc, c'était une.
Bien, je crois.
Ah, l'écolo revient.
Non, mais vous vous rendez compte ce qu'il dit ? Je crois que ça marche bien. En fait, ça marche pas.
Non, mais, ça, donc, mais Pascal, est-ce que je peux vous demander votre source ?
Je crois qu'il y a 8000 éoliennes en France.
Oui.
Sur 550 000 km². Ça fait une éolienne tous les 70 km².
Oui, mais elles sont en face de ma maison. c'est à la Baule. Elles sont, j'ai pas de peau, il y en a 8000, j'en ai 50 devant moi.
Je me demande s'ils l'ont pas fait exprès.
Je pense qu'ils l'ont fait exprès.
Et ça fait du bruit.
Les gens sont des victimes. Gabriel Yared, ils l'ont posé un jour, un bon matin, il s'est réveillé, il a entendu un bruit, un hélicoptère énorme, on lui posait un énorme pylône de.
Mais bien sûr, il demandait aux Pouliguen et à la Baule ce qu'on pense des éoliennes.
Si on pense du bien, mal à la Baule ou au Pouliguen, alors dans ce cas-là...
Bon, France Inter.
C'est une vraie enquête scientifique.
France Inter. Alors là, j'attends la réaction de France Inter. C'est évidemment dérisoire, mais c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils en ont rien à faire de leur hiérarchie.
Ils démissionnent tous, donc à partir de ce moment-là...
Charline Van...
Non, mais un des humoristes a démissionné en direct.
Il a démissionné de l'humour, lui, surtout, depuis longtemps, parce qu'il n'est pas très drôle.
Non, pas Meurice.
Ah, Meurice. Tiens, juste, on va commencer par ça. Le tweet de Meurice. Vous allez voir ce tweet, parce que j'ai été vérifié. Monsieur Maurice, il m'interpellait. Donc, est-ce qu'on l'a, ce tweet, chère Marine Lançon ? Est-ce qu'on l'a, ce tweet ? On l'a ou pas ? Non, on ne l'a pas. Il arrive, ce tweet. Il arrive. Bon. Je ne sais pas où il est. Bon, Monsieur Meurice, j'ai appelé ce matin GFK, qui est... pas un monsieur, hein, GFK, c'est une source de livres et qui donne le nombre de livres vendus. Il a vendu 8700 exemplaires de son livre. Bah, 8700. Vous trouvez que c'est beaucoup,
Aujourd'hui, c'est énorme.
Aujourd'hui, c'est énorme.
C'est un best-seller aujourd'hui.
Non, mais franchement, c'est pas mal.
Aujourd'hui, c'est un très bon score.
C'est un bon score.
Vous lui avez cassé son effet.
Bon, 8000, vous trouvez que c'est énorme, 8700?
C'est pas énorme, mais c'est correct.
Les amis, moi, je veux bien qu'on fasse 8700. C'est quand même pas un succès, 8600. C'est un succès.
Demandez à n'importe quel éditeur.
À 100 ans, ça aurait été énorme. Virginia Woolf, elle vendait 3500 exemplaires de ses livres.
Non, mais attendez, Virginia Woolf, c'est pas exactement Monsieur Meurice.
Elle passait pas à France Inter.
Bon, Charline Van Hanecker, donc elle a fait son petit édito hier pour dire à Madame Veil un bras d'honneur.
Oui, hop, c'est ça.
Je m'en fiche complètement de ce que vous dites. J'attends ce que va dire Madame Veil, mais elle va se coucher. J'imagine, parce qu'elle tient son petit poste, et puis ils veulent pas de grève, rien du tout.
Ils ont laissé une chaise vide.
Ouais. Symboliquement.
Mais c'est que cette suspension n'est pas forcément une bonne idée.
Non, moi, je suis assez d'accord.
Alors, je vous propose d'écouter Mme Van Den Ecker. Oui, vous...
J'aime le goût de la liberté, Elisabeth.
Oui, mais en plus, moi, je suis. Le paradoxe, c'est que je peux être assez d'accord avec.
vous demandez à Sybille Veil de virer tout le monde.
C'est un paradoxe. Mais je ne lui demande pas du tout. Mais à partir du moment où elle est rentrée dans un cycle, ce qu'elle fait pour l'un, elle doit le faire pour l'autre. C'est ça que je veux dire. Bon, écoutez, voilà. Déjà en réimpression 2 semaines après sa sortie, près de 10 000 euros récoltés pour Médecins du Monde, ça c'est très bien, hein, il a donné à Médecins du Monde. Merci Pascal Pro, c'est moi, et merci le Cyril Adena et compagnie. Mais il a rendu 8 700, c'est quand même pas... vous me dites que c'est formidable.
Pas mal, c'est pas si bon. Mal pour lui. C'est...
Alors écoutez l'édito de France Inter hier, écoutez.
Aujourd'hui, oui, un seul être vous manque, et c'est Guillaume Meurice, qui n'a pas le droit d'être avec nous ce soir. Radio France l'a envoyé 2 semaines en internat pour le remettre dans le droit chemin. Il est convoqué le 16 mai pour faute grave. Faute grave ! Alors, en cabotin qu'il est, vous le connaissez, il s'est amusé dimanche dernier à refaire une blague que la justice française venait pourtant de requalifier comme blague, puisque la plainte contre lui a été classée sans suite. Alors, classée, oui, mais sans suite. Alors j'ai une pensée émue pour le procureur qui a classé la plainte. Il doit penser, ok, donc moi je dis un truc, mais à Radio France, tout le monde s'en carre en fait. Alors, certains d'entre vous nous ont demandé pourquoi nous ne sommes pas en grève. Ben, d'abord parce qu'on est des spécialistes de la grève. On les a toutes faites depuis 10 ans. Voilà, et on connaît les règles. Eh oui, on connaît les règles. Préavis de 5 jours à Radio France. Vous voudriez pas qu'en plus on se mette hors la loi, hein? Et puis comme l'extrême droite a décidé de nous faire taire, ce soir, on va tout de même pas leur laisser ce plaisir.
C'est pas l'extrême droite, c'est Madame Veil. Donc Madame Veil est d'extrême droite, manifestement. Mais tout le monde est d'extrême droite hein, pour ces gens-là.
Vous savez, moi,
bon, écoutez, Jamil Le Schlag, qui lui, alors, lui, il a démissionné en 2000. Bah, écoutez, je le connaissais pas, donc ce monsieur. Mais il doit être très drôle. Écoutez.
En fait, il y a plus de liberté d'expression sur CNews que sur France Inter. Non, mais les gars. Hey. Et je vais envoyer mon CV à Pascal Pro, t'sais. Et tout de suite, dans l'heure des pros, on accueille Jamil Le Schlag. Eh les gars, c'est incroyable, vous avez vu? Il y a trop d'arabes, wouh! Je m'adapte, man, bordel! Eh, France Inter, ils font trop rire. Oh, le double discours, vraiment, tu sais, des macronistes. Bon, je suis à 2 doigts de voter Marine. Alors, la direction, ils sont là. Oui, nous, tu comprends, c'est l'esprit Charlie. On va titiller les interdits, mais on va rien titiller du tout. Même quand c'est autorisé, tu fais une vanne, on veut te virer. C'est pas l'esprit Charlie, c'est l'esprit Charles Pasqua. On va terroriser les humoristes. Wouh! Vanne publique, c'est là. Non, mais perso, hein, pardon, hein, j'ai pas le temps, les amis, parce qu'on a que 3 minutes. Je vois pas ce qui est choquant à comparer Netanyahou à une sorte de nazi sans prépuce. Parce que cette phrase, hein, je mets des guillemets, sorte de nazi sans prépuce. Oh, c'est ma dernière chronique, en fait.
Bon, d'abord, c'est nul. Première c'est chose, problème, oui. C'est pas drôle. Il a... bon, deuxième chose, s'il veut venir sur ce plateau, il vient.
Mais surtout qu'ils font une obsession sur nous.
Monsieur Jamil Le Schlag, s'il veut venir, il vient. Il vient, il n'y a pas de souci. Je lui dirais que c'est ça. Il a peut-être d'autres chroniques qui sont drôles. Celle-là ne l'est pas. C'est très dur hein, de faire rire. Celle-là n'est pas drôle. Bon. Et il vient s'il veut. Mais tous ceux que j'invite, ils ne viennent pas. Parce qu'ils ont la trouille. Mais il peut venir.
Moi, ça me rassure, parce que j'aurais rêvé d'être humoriste. Ma fiancée me dit que je ne suis pas drôle, donc que c'est difficile. Mais là,
là c'était très drôle.
Là, je peux lancer une émission d'humour. Hein.
Mais ça, c'est drôle ce que vous venez de dire. Vous venez de faire rire tout le plateau.
Non, je ne l'étais pas. Voilà.
Mais non, mais justement, vous êtes au contraire très drôle. Pourquoi elle vous dit ça, votre fiancée?
Non, mais elle est convaincue que si je faisais un spectacle d'humour, ce serait bide sur bide.
Mais non, mais ah bon?
Malaise sur malaise, comme on dit aujourd'hui. Mais je pense qu'elle n'a pas tort.
Mais c'est autre chose de faire un. C'est autre chose de faire un. Mais je trouve que vous venez de dire quelque chose qui était très drôle. Vous avez fait rire tout le monde.
Vous ne manquez pas d'esprit. Bon. Étoile aînée sur ce plateau.
Non, et juste plus sérieusement, je voulais dire. Je suis assez d'accord avec Elisabeth. Ça veut dire que moi, Guillaume Meurice, j'ai franchement, c'est pas mon humour. Je ne trouve pas ça drôle. Mais je trouve que si vous voulez censurer l'humour, même quand c'est du mauvais humour, même quand c'est dérangeant, un, c'est contre-productif, et deux, ça pose des problèmes.
Alors là où vous avez raison, c'est que moi, je suis sur la même ligne que vous, à 100% pour la liberté d'expression, dans tous les domaines, toujours et tout le temps. Voilà. Mais ces mêmes gens-là, M. Meurice, il a signé la pétition pour interdire CNews.
Bien sûr.
Il l'a signé.
Voilà, mais ça, c'est le vrai problème.
C'est quand même extraordinaire. Il l'a signé. Ça, M. Lachelag, peut-être aussi.
Monsieur,
non, comment il s'appelle le Schlag, je le connais pas.
Monsieur Lachelag.
Non, mais comment
il s'appelle comme ça.
Jamil, bah, il s'appelle comme ça.
Ça doit être, mais... C'est peut-être un pseudo.
Oui, ça doit être un pseudo.
Monsieur
oui.
Lachelag. Bon.
Mais c'est ça le vrai problème.
C'est voilà, c'est ça, mais ils peuvent venir. Monsieur Meurice, s'il veut venir, il vient. Il a juste à m'appeler, il a mon portable.
Il nous mettre au chômage, donc c'est quand même particulier.
Clause de conscience, Gilles Martin Chauffier.
Gauche de signer des pétitions, parce que.
Mais bien sûr.
Dans l'édition, Annie Arnault avait quand même lancé une petite pétition.
On en a parlé avec M. Millet ici. On a reçu monsieur. Vous savez que j'ai reçu Richard Millet, je dois être le seul.
Ah oui. Ouais.
Et on l'a réinvité fin mai. Il va revenir.
Non, mais c'est même pas que je sois d'accord avec les idées de Richard Millet.
Mais moi non plus.
Mais en revanche, je trouve que lancer une pétition quand on est Annie Arnault, qui à l'époque était la star de Gallimard.
Mais exactement.
Elle a fait virer Millet.
Mais elle a fait. Mais Annie Arnault a fait virer Millet. Vous avez parfaitement. Et ça n'empêche pas que moi, j'ai lu Annie Arnault et les années et que j'aime beaucoup.
Millet qui avait fait obtenir le Goncourt à Grasset. À
Gallimard. Les Bienveillantes, bien sûr. Oui. Mais moi, j'aime bien, franchement, Annie Arnault. Oui. Vraiment, je l'aime bien. Je ne peux pas vous dire autre chose. J'aime ses idées, c'est autre chose. Mais je trouve que ce qu'elle écrit...
Millet, comme n'a plus aucun humour, quand même. Vous en êtes rendu compte.
Millet n'a aucun humour.
Ah non, Annie Arnault.
Ah, mais Annie Arnault, je peux... c'est pas... Non, oui, bien sûr. Mais l'humour, c'est une langue étrangère. Bon, l'amour selon les âges, vous en parlez. Il y a un côté un peu dandy chez vous que j'aime physiquement quand on vous voit d'élégance.
Ah bon ?
Oui, bien sûr. Bon, à 20 ans, l'amour est tout simple. Tu cherches la porte d'entrée et dès qu'elle s'entrouve, tu mets le pied sur le palier. Tu fonces et tu pousses la musique à fond. À 60, parvenu dans la chambre, tu te précipites pour fermer les rideaux et tu t'arranges pour ne faire aucun bruit.
Oui. En même temps, le livre, c'est le personnage qui raconte le narrateur. C'est un homme qui est un peu au bout de sa vie, d'une certaine manière. Lui, il dit, quand il voit arriver Bolloré, il se dit uniquement une chose, je ne vais pas faire de l'aggloméré d'indignation convenue. Je vais voir prendre si je peux prendre des indemnités, comme ça je vais pouvoir restaurer ma maison de Bretagne. Il est un opportuniste. Et en même temps, quand il voit cette jeune femme, dont il comprend tout de suite qu'elle va lui faire un grand numéro, parce qu'il est rédacteur en chef d'un grand journal, et lui, il tombe amoureux d'elle. Mais en même temps, il n'est pas fou. Il dit, quand tu es sur une mauvaise pente, il ne faut surtout pas accélérer. Donc il freine par tous les moyens. Et l'histoire est amusante, c'est comment tu essaies... C'est un peu l'histoire qui était Adolphe, qui a eu un succès dingue au XIXe siècle. On se demande pourquoi Adolphe, quand on lit nous aujourd'hui, ça sent plutôt ennuyeux. Et en fait, Adolphe, c'est le premier roman dans lequel le grand sujet du livre, c'est comment me débarrasser de cette bonne femme. C'est ça le sujet du livre. Ce qui n'était jamais arrivé dans un
Adolphe roman. PH, je le précise, et oui. C'est en plus
de
le
Benjamin
fameux.
Constant, pardon.
De Benjamin Constant. Oui. Et dans le prénom, dans le film Le Prénom, il est fait référence à Adolphe de Benjamin Constant, puisque Patrick Bruel, à un moment, voit le livre, etc.
Bon. Là, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire, comment se débarrasser d'une jeune fille. Et puis, évidemment.
Alors, il se trouve que vous avez travaillé à Paris Match. Que oui, quand Vincent Bolloré est arrivé, vous avez quitté Paris Match, que vous avez une maison en Bretagne et que vous avez peut-être pris, forcément, comme vous travaillez depuis longtemps, un petit chèque. Donc finalement, ce monsieur, c'est vous.
Oui.
Ah.
Oui, bah, évidemment. Oui. Mais c'est ça, c'est moi et c'est pas moi. Il y a des choses que je n'ai pas faites et puis j'invente des. Il y a des personnages, les gens croient connaître ici Nicolas Hulot, c'est pas du tout Nicolas. Là, ils croient connaître.
Là, moi, j'ai l'impression que c'est Yann Barthès quand même, à force de parfumer.
C'est Marchand, mais c'est aussi Françoise Verny dans les rapports que j'ai eu avec elle, la façon de parler. Les déjeuners, c'était déjeuner avec
Françoise Verny, qui était une grande papesse de l'édition, qui est morte depuis, qui buvait du whisky et fumait des cigarettes, et qui avait fait notamment Le Jeune Jardin à l'époque. À force de parfumer à l'encens, là c'est Yann Barthès dont vous parlez, à force de parfumer à l'encens la sacristie des indigénistes, des féministes, des tiers-mondains et de tous les branchés, il est déjà sur la piste d'envol vers la Légion d'honneur, la direction des programmes d'une chaîne et la voiture avec chauffeur. Il finira mandarin comme Cohn-Bendit, Serge Julie et 20 autres révoltés institutionnels. Quand il pointait à Canal, il se faisait les grilles sur TF1. Maintenant, il travaille pour la chaîne Hier Maudite. Dès que Bolloré lui proposera un créneau, il changera de refrain. C'est Paris. Les journalistes ont leurs idées de leur journal. Les journalistes ont les idées de leur journal ou de leur chaîne. Bon, Quand il se lève et se casse en jouant les indignés, c'est pour donner une interview à Télérama ou accorder une photo, une séance photo aux Inroc. Ce sont des aristos. Quand ça arrange leur patron, ils se déguisent en sans-culottes, puis ils remettent leur bas de soie pour aller dîner en ville. Quel texte sur les journalistes.
Il y a longtemps que ce genre d'opinion fleurit. Au XIXe siècle, Sosthène de La Rochefoucauld, qui était un peu le ministre de la Culture de Louis XVIII, avait une haine pour Chateaubriand. Et il disait à propos de Chateaubriand, ce qui est parfaitement bien pour Yann Barthès, il a un don pour s'émouvoir de ce qu'il ne ressent pas. Ben, c'est exactement ça. Les gens qui, en fait, France Inter, France Info, Canal, etc., c'est ça. Je m'indigne, je fais semblant d'être indigné et choqué par une chose dont je me fiche éperdument, parce que de toute façon, après, j'irai dîner au café Marly en y allant au bord de mon 4x4. Mais pendant une heure sur mon plateau, je vais faire semblant.
Alors, je peux vous dire que ce n'est pas le cas. J'espère des gens que je reçois ici et qui sont sincères et authentiques. Et ce n'est pas le cas, si vous me permettez, votre serviteur. Moi, je peux me tromper, bien évidemment, mais je suis. Les gens qui m'ont connu en fac, à Nantes, il y en a quelques-uns. Tiens, M. Guibert, il m'a regardé, je disais la même chose. J'ai toujours dit la même chose, d'ailleurs. Ce qui est un risque de dire toujours la même chose. Voilà. C'est pas non plus une bonne chose de dire toujours la même chose. Mais c'est vrai, moi, je suis évidemment d'accord avec vous. Parce qu'on les. En fait, on se connaît tous dans ce milieu.
Oui.
On sait qui est qui. Et surtout, on sait ce que pensent ceux qui ont travaillé avec ces figures-là, parfois, quand ils ont travaillé, parce qu'ils ont été leur assistante, ils ont été un confrère, et bon, ils ont vu comment ils se comportaient dans la vie de tous les jours. Et ça, si le public savait, ça, parfois, ça
peut changer les choses. On peut quand même voir comment on passe d'un journal à un autre en gardant toujours le même feu sacré.
Ouais, c'est pas si fréquent, ça, quand même.
Par exemple, François-Olivier Gisbert est passé du Nouvel Obs au Figaro et il est devenu du jour au lendemain, il disait le contraire de ce qu'il disait la veille.
Oui, mais il fait partie de ceux qui ont bien évolué.
Évidemment, si c'est reproché.
Non,
il est de gauche à droite.
Parce que cette transition, Philippe Guibert, il est encore au Nouvel Obs. Vous voyez, il a encore.
Ça veut dire qu'aucun espoir n'est.
Non, mais c'est pour ça que j'aime bien Mitterrand, parce qu'il est passé de droite à gauche. Vous voyez, c'est
et puis il dit des choses, Fogg, maintenant. Sa trilogie est extraordinaire.
Extraordinaire.
Moi, j'ai lu deux bouquins au même moment de lui, donc le dernier chapitre de sa trilogie, et au même moment, un autre journaliste du même âge qui enchaînait les fiches Wikipédia. Et c'était totalement insipide. Bon. Et on avait deux visions du journalisme qui se confrontaient à travers ces deux.
Je salue Guillaume Meurice. Je salue Guillaume Meurice parce qu'il m'envoie des petites histoires. Et puis, moi, une fois qu'on a tout dit, au fond, moi, je l'aime bien, moi, Guillaume Meurice, au fond. J'aime bien les gens. J'ai rien contre lui, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai rien contre lui. Je trouve que ce qu'il dit, je trouve qu'il pourrait être plus drôle qu'il ne l'est. Voilà. Je pense qu'il a, au fond, ils sont eux-mêmes prisonniers de leur public et de leur. De l'endroit sur lequel ils interviennent. Je suis sûr qu'il vaut mieux que ça. Donc là, il me dit merci pour la promo. Je vous engage comme agent littéraire. Si vous me donnez 10%, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? En tout cas, je l'invite s'il veut venir. Si tous ces gens-là veulent venir.
Ça serait intéressant qu'ils viennent un matin.
Ah là, serait intéressant.
Ça serait très intéressant.
Mais qu'ils viennent. Mais pourquoi ils ne viennent pas?
Vous envoyez-lui un texto. Je suis sûr qu'il viendrait.
Vous voulez qu'on l'appelle?
Allez-y.
Pour voir s'il répond.
Allez, on lui cède. Alors là, ça va faire une séquence.
Vous croyez, on tente. Allez, on va voir. On voit s'il répond. On voit s'il répond. Là, c'est sur WhatsApp.
Peut-être l'heure de sa douche.
On voit s'il répond ou pas. Parce que j'ai l'impression de faire la valise. Bon. Monsieur Meurice, on va voir.
Il nous regarde, mais il ne répond pas.
Non, il ne nous répond pas.
Sur mon WhatsApp.
Hein. Ah ouais, non, il n'y a pas de sonnerie sur les WhatsApp parfois. Parce que là, je l'appelais en faux. Bon, clause de conscience, c'est aux éditions Bernard Grasset, donc un été de canicule au bord de l'Atlantique, une jeune actrice, Clémence Moncœur, attend la sortie de son premier film, et elle est donc coachée par la redoutable Corinne Contant, et puis il y a un rédacteur en chef qui ne voulait pas vraiment faire l'interview, et puis on l'oblige quasiment à y aller, elle y va, et puis il va tomber sous le charme, et puis c'est une balade dans Paris, une balade dans nos univers, une balade dans ce monde qui pétille de temps en temps, et y a un côté Saint-Simon aussi, disons-le, là-dedans.
Il y a un côté aussi, c'est un peu agaçant depuis des années de voir des femmes victimes, on a l'impression que depuis que MeToo règne, les femmes sont toujours un rôle de victime. Or là,
La littérature française, depuis Emma Bovary, c'est elle qui gâche la vie de Charles, c'est pas le contraire, c'est Thérèse Esquirou qui abat son mari. C'est pas l'inverse. Madame de Merteuil, c'est peut-être, c'est elle qui mène l'intrigue. Et donc, là, je voulais montrer que la jeune fille est quand même habile, amusante.
Ça arrive, ça arrive. Alors, vous avez une minute.
Ça, c'est autre chose.
Vous avez une minute, Sommeil, parce qu'on est en retard et je voudrais pas qu'on soit en retard avec Jean-Marc Morandini, donc je vous propose peut-être de faire un tout petit poil plus court de ce que vous deviez faire pour votre intervention. Pardon. Mais vous n'y êtes pas, vous n'êtes pour rien. Je tiens à le dire, Somaya, c'est moi le seul responsable.
Deux suspects toujours recherchés après une nouvelle fusillade à Sevran, en pleine rue ce dimanche. Deux hommes ont été tués. Des faits qui se sont déroulés moins de 48 heures après une fusillade, probablement liée au trafic de drogue, et qui a fait un mort et des blessés dans un autre quartier de la ville. Gérald Darmanin veut accélérer l'expulsion des délinquants, des étrangers délinquants. Dans un télégramme au préfet, le ministre de l'Intérieur demande d'augmenter les cadences et se félicite de son bilan sur X avec 1666 expulsions depuis janvier, soit une augmentation de 28% en un an. Et puis au moins 6 morts et 35 blessés dans la région russe de Belgorod suite à une attaque ukrainienne de drones. Une zone frontalière de l'Ukraine est régulièrement visée par des frappes des forces de Kiev, selon le gouverneur de la région.
Somaya, et puis il y a quelqu'un qui m'écrit, moi si vous m'appelez, je réponds. Le problème c'est que je ne sais pas qui c'est. Il y a plein de gens qui ont mon téléphone, donc lui il n'y a pas de bon. Vous parlez du travail des SDJ, des sociétés de journalistes également, c'est intéressant.
Oui, il y a un petit côté bourdon sous un abat-jour, dès qu'une actualité peut susciter l'inquiétude, l'indignation... Je vous dis ce que j'ai dit tout à l'heure, je veux dire, cette façon de ramasser des copeaux d'informations pour en faire de l'aggloméré d'indignation, c'est agaçant. Et c'est un peu le principe des sociétés de journalistes, quand même.
Bon, vous êtes à l'ancienne, effectivement, et vous devez être surpris peut-être de la nouvelle génération, même s'il y a des exceptions. Notamment notre ami Gauthier Lebret, qui fait partie des jeunes garçons qui ont du talent. Quoique, au mois d'août, il part désormais en vacances.
Voilà, j'y attendais. Il m'a juré qu'il me le ferait tous les jours. En fait, il n'est pas venu à mon mariage pour des raisons fallacieuses. Et donc là, il essaye de venir à mon divorce.
Briseur de coups. Il prépare ses punchlines tout le week-end. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Il l'écrit, il atteste auprès d'amis, etc.
Certains cherchent à savoir où il était le jour de mon mariage. Voilà,
Mais je vous ai dit où j'étais. Écoutez, franchement... franchement.
Les témoins disent le contraire.
Mais il n'y a pas de témoins, vous dites n'importe quoi. Hein, bon, vous. Je voudrais vous dire qui était avec nous aujourd'hui. Marine Lançon, si elle peut me dire qui était à la réalisation. Henri de Mérindol était à la réalisation. Philippe Gilbert était à la vision.
Gilbert.
Et Isabelle Zaven était au son. Merci beaucoup Jean-Marc Morandini. Dans une seconde, Clause de conscience, Gilles, Martin Chauffier, je vous le recommande, c'est chez Grasset, c'est vraiment très rigolo, ça se lit formidablement bien et vite, et vous avez tellement de talent. Ce qui est vrai d'ailleurs, et puis c'est pas votre premier livre, votre premier roman, vous en avez écrit combien?
Ça doit être mon 14e ou 15e.
Bon, écoutez, lisez Gilles, Martin Chauffier, vraiment, vous ne vous ennuirez pas. Et ça n'a pas de prix. De ne pas s'ennuyer.
Merci beaucoup.
Rendez-vous ce soir.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.